sur Fréquence Mistral 99.3 antenne de Digne. J'ai le plaisir d'accueillir David Carion et Benoît Paillard. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour Jean-Marc.
Alors vous êtes venu pour nous parler de votre activité musicale, notamment vous Benoît, qui est un tout petit peu pressé par les orages notamment.
Oui, en tant que coordinateur, on va dire, de l'activité pédagogique et artistique du conservatoire, je viens parler un petit peu des activités qui sont pas toutes autour des musiques actuelles, ce dont vous allez parler aujourd'hui avec David, mais plutôt le grand spectacle de fin d'année du conservatoire. Je dis grand parce qu'il y a beaucoup de monde qui joue, et aussi par la qualité, c'est autour de la venue de Amine Soufari, qui est un artiste algérien en résidence en France, enfin qui fait ses études de musicologie, qui est à l'université, qui est encore étudiant donc, et qui est à la fois compositeur, interprète dans de nombreuses pratiques instrumentales. Il joue un peu tous les instruments, il a une grande maîtrise de la musique de son pays, et il a arrangé pour une grande formule, donc autour des chœurs, orchestres et orchestres traditionnels, orchestre symphonique et orchestre traditionnel. Un spectacle qui va rassembler une centaine d'intervenants. Il y a eu une première partie du spectacle qui s'est donnée lors du concert de Cordelus, qui est un groupe vocal dans lequel il participe. Ça a été fait au mois de mars au Centre culturel, avec une partie des chants qui seront redonnés en grand orchestre. Donc c'est de la musique arabo-andalouse, et c'est un exemple de partage culturel qui est vraiment très encourageant, aussi bien au niveau humain que musical. Et je pense que les enfants qui participent à ce projet sont ravis de le faire. Et ça nous permet, nous, de présenter un domaine tout à fait différent, musical, dans lequel on peut très bien jouer tout à fait les instruments occidentaux. Et c'est très bien orchestré, c'est très bien arrangé pour un orchestre de 30... une trentaine de musiciens classiques, 12 ou 13 musiciens de l'ensemble traditionnel de Patrice Gabet, donc qui ont appris aussi tout le répertoire, et un chœur d'une cinquantaine d'enfants qui chantent en arabe et en occitan. De très belles mélodies, c'est vraiment très très beau. Hein. J'allais oublier un petit corps de ballet, si j'ose dire, avec les danses traditionnelles. Donc il y a une douzaine de danseurs qui participent à quelques-uns des titres de ce programme. C'est un concert qui se donnera le 30 juin au plan d'eau de la scène de la Gravière, là, donc dans le cadre de la programmation de la ville de Digne. Je crois que c'est le premier concert de l'été, 30 juin, donc à 20h30, en plein air. Si la météo n'est pas comme celle d'aujourd'hui, le concert aura lieu sur la fameuse scène mobile mise en place il y a quelques temps. Donc on croise les doigts pour que ça se passe bien au niveau de la météo. Voilà.
Et pour ce qui concerne la musique moyenne-orientale, il n'y a pas une différence au niveau de fait pour jouer. Il n'y a pas pour le... Je cherche le mot. Le solfège, voilà.
Bah, disons que là, l'adaptation est faite pour qu'on puisse, nous, lire. Mais Amine Soufari est venu faire plusieurs masterclass, dont une concert-conférence à la fin du mois de septembre dernier au Centre culturel, où il est venu expliquer un petit peu le vocabulaire, justement, l'aspect rythmique des choses, qui est quand même très différent. Ça s'écrit dans notre langage, mais tout ne se transmet pas, un peu comme dans le jazz. Il y a toute une notion culturelle, historique, voilà, il faut connaître un petit peu. Donc il a formé les professeurs du conservatoire qui à leur tour ont passé le message aux enfants, et le résultat est très plaisant. Déjà le concert du 24 mars, là, c'était assez éloquent, à plusieurs voix, donc polyphonie et mode tempérament, en fait, arabe, donc avec des intervalles entre guillemets faux pour nous, mais qui sont tout à fait justes dans cette musique-là, mais des intervalles qui sont pas tempérés, donc qui sont un petit peu différents des nôtres, et il faut réussir à s'adapter. Les enfants l'ont fait magistralement.
Et dans le regard des enfants de découvrir cette musique, comment ça s'est passé? Ils en ont parlé?
Beaucoup de lumière dans leur regard, parce qu'ils se régalent et ils le disent, et on les surprend à chanter dans les couloirs du conservatoire et ailleurs. Les parents le disent aussi, tout le répertoire, avec les inflexions, avec ce qui caractérise cette musique-là, qui est en fait ce que lui appelle les grains de beauté de cette musique, qui sont l'ornementation, ces petites vibrations autour des notes, et qui donnent vraiment un sens, une saveur inimitable. Et ce spectacle s'appelle Couleurs d'Andalousie, donc musique arabe et musique arabo-andalouse en fait.
Donc vous pouvez nous redire exactement la date ?
Donc samedi 30 juin à 20h30 au plan d'eau de la Gravière, enfin espace de la Gravière, je ne sais pas comment on dit, à côté du restaurant du lac, près du mur d'escalade. Là, il y a tout cet espace qui est réservé au public et la scène sera à cheval entre le parking et la grande partie herbeuse. Là, ça va être très joli.
Ben, de toute façon, nous aurons l'occasion de reparler sur l'antenne de Fréquence Mistral Digne pour relayer votre spectacle. Merci Benoît.
Merci Jean-Marc.
David, à vous.
Bonjour.
Un petit novice à la radio.
Exactement, c'est que la deuxième fois, mais ça va bien se passer.
Ah, vous avez l'habitude du micro et du chant, parce que vous chantez.
Exactement.
Et là, dans quel cadre venez-vous nous voir exactement, David ?
Eh bien, je vais vous voir dans le cadre du conservatoire, de la classe de musique actuelle, que j'ai la chance de piloter depuis la rentrée de septembre. Donc on vient parler un petit peu de l'actualité de nos jeunes et de nos moins jeunes qui se retrouvent dans les groupes de la classe pour jouer de la pop, du rock, du funk, de la chanson française et tout ce qui est les musiques amplifiées depuis 70 ans. Et voilà, il y a beaucoup à dire parce qu'il y a beaucoup de manifestations qui arrivent. On en parlait avec Benoît juste avant de venir vous voir. Donc voilà, ça va être sympathique.
Et vous avez un parcours quand même qui parle pour vous. Vous êtes professeur de piano tout style. Vous donnez des cours individuels ou en atelier, ça, il n'y a aucun souci pour vous. Le formateur de sandpainting, qu'est-ce que c'est exactement ?
Ah, le sandpainting, c'est toujours la question. Le sandpainting, c'est un langage des signes qui permet de diriger l'improvisation des artistes en temps réel. Multidisciplinaire, on mélange la musique, le théâtre, la danse, les arts visuels divers et variés. Et on a un langage, comme pour le langage des sourds-muets, il y a un chef d'orchestre qui demande un certain type d'improvisation et les artistes répondent à ça et on construit les pièces en temps réel.
Justement, pour les personnes qui ont une déficience au niveau auditif, il y a des méthodes qui apparaissent de plus en plus pour que les gens reconnaissent la musique, même s'ils n'entendent pas avec des couleurs. Vous faites comment, vous ?
Alors, moi, avec les autistes, j'ai eu l'occasion de faire ça une fois dans le cadre d'une soirée avec les sourds-muets, où on avait fait justement une petite formation sur le sound painting et une petite pièce le soir. À partir du moment où tout le monde voit, si je puis dire, il y a toujours moyen de proposer une idée, une improvisation quelconque. Et on avait réussi à faire des choses très, très sympas.
Et les sourds-muets, on va les appeler comme ça parce que c'est leur nom, peuvent communiquer avec vous pour que vous sachiez comment ils ressentent cette musique ?
Ça, c'est plus délicat. Je pense qu'ils ont un monde à eux et qu'ils ont une façon de ressentir les choses qui est difficile pour nous parce qu'on a d'autres perceptions. Donc, notre attention n'est pas portée sur les mêmes choses. Donc, je sais que pour eux, il y avait beaucoup, beaucoup de rendus en ce qui concernait les basses, tout ce qui faisait partie de la percussion et qui permettait d'avoir un ressenti sur le corps, jouait un rôle très important. Et quand ils improvisaient, c'était les principales choses qu'ils proposaient d'ailleurs.
Est-ce qu'au niveau des ondes, justement, il y a une perception différente entre les basses fréquences et les hautes fréquences ?
Disons que les basses fréquences rentrent plus facilement en résonance avec le corps, puisque le corps humain a une basse fréquence aussi. Donc tout le monde a pu expérimenter lors d'un concert des infrabasses qui nous font vibrer le ventre ou voilà, ce genre de choses. Sur les aigus, c'est pas tout à fait pareil, quoi. Donc oui, c'est plutôt les basses qui vont rentrer en résonance.
Et vous êtes également porteur de projets, expérience de studio comme pianiste, chanteur, arrangeur, producteur. Vous en êtes où par rapport à tout ça ? Parce que vous avez vraiment une carte, vous êtes multi-carte.
Ben disons que jusque-là, j'ai beaucoup dans ma carrière mis l'accent sur le côté scénique, hein, sur la scène et sur les projets. Et l'envie de m'investir dans l'enseignement et la chance que m'ont proposé Benoît Paillard et Eric Doucet, les directeurs du conservatoire départemental, de travailler au sein de la classe de musique actuelle, ça a vraiment été pour moi un moment important de ma vie, un moment charnière, puisque j'arrive à un âge aussi où on a envie un petit peu de plus se poser, et que les déplacements intempestifs, c'est pas toujours ça. Donc ça permet de se concentrer sur les projets qui nous tiennent vraiment à cœur, et le conservatoire en fait partie d'ailleurs, quoi. Voilà, et ça a vraiment été une activité plus qu'à plein temps cette année, de par mon envie de faire quelque chose de bien, de dynamiser les communes, de dynamiser le département, et puis surtout de faire plaisir aux élèves qui puissent apprendre la musique, progresser et en se régalant avec le jouer ensemble.
Alors pour vous faire connaissance musicalement parlant, nous allons écouter un de vos morceaux qui s'appelle Emily Stocking.
Oui.
Justement, on parlait de la parole.
Ouais.
Et on se retrouve juste après.
Très bien.
Benoît Paillard, nous revenons vers vous parce que vous avez vraiment une activité florissante pour ce printemps. Vous allez aller bientôt à Lausanne Jazz Club, c'est à l'URSS.
C'est ça. On a un joli partenariat avec Philippe Balin et Agnès, sa compagne, qui ont ouvert ce club il y a un an et demi maintenant. Ce club totalement impensable ici, selon certaines personnes, et qui fonctionne à merveille avec une programmation que bien des festivals lui envient. Donc une véritable programmation en jazz et une ouverture aux autres musiques auxquelles on participe modestement avec le conservatoire dans le cadre de programmation d'une ou deux programmations dans l'année, mais surtout des jam sessions organisées par le conservatoire et le Lausanne Jazz Club en partenariat. Donc il y en a une par mois. La jam session, hein, juste pour l'auditeur qui ne sait pas de quoi il s'agit, c'est un moment de rencontre de musiciens amateurs autour, ou pas, mais autour d'un groupe ou de musiciens professionnels plus chevronnés qui organisent, qui coordonnent un petit peu le passage des musiciens. Donc on joue un répertoire que tout le monde est censé connaître et sur lequel chacun peut venir s'exprimer. Et c'est vraiment, ça fait partie de la formation d'un musicien que de participer à ces jams-là. Et les jeunes répondent présents, ça marche vraiment bien. On a jusqu'à 70 ou 80 personnes quelquefois, David.
Plus de chaises.
Voilà.
Plus de chaises disponibles.
Autant presque que dans les concerts qui marchent bien. Donc ça, c'est vraiment une chance inouïe qu'on puisse accéder à ça. Et du coup, j'en profite pour dire que nous jouerons avec mon groupe qui s'appelle Balkanologie, Patrice Gabet, Christian Hildevert, donc Patrice Gabet au violon, Christian Hildevert à la contrebasse, ils chantent aussi tous les deux, un répertoire autour de la musique des Balkans, mais traité pour ma part en jazz, donc forcément on ne se refait pas. Et moi j'adore cet univers de mesures dites bancales, en fait, qui sont des mesures asymétriques, des mesures qui balancent pas carré comme on a l'habitude. Et donc c'est vraiment tout un monde mélodique aussi très intéressant, avec des inflexions, des choses qui sont différentes du jazz, mais en fait c'est des mondes qui se marient très bien. Et c'est des musiques qui improvisent aussi, donc et je pense que la musique des Balkans, c'est un des apports majoritaires dans le jazz moderne. Donc depuis une trentaine, une quarantaine d'années, la musique des Balkans a beaucoup influencé le jazz. Donc voilà, on c'est ce projet là 21 juin à 21h, Balkanologie à Lausanne Jazz Club. Mais dans l'actualité du conservatoire en musique actuelle, il y a aussi la classe de jazz. Il y a Christophe Leloual que d'aucuns ont, voilà, le trompettiste que tout le monde a croisé au volant du brass band du conservatoire, qui est un bel ensemble d'une vingtaine de musiciens, percussions et vent, qui déambule et qui jouera samedi prochain aussi dans le cadre de Jardin, en fait. Donc on participe aux événements de la ville de Digne. Et il n'y aura pas que le brass band. Il y a le brass band de la matinée vers 11h sur le marché. Et à partir de 14h15, les groupes de musique actuelle, sous l'égide évidemment de David, participeront à un moment de concert à côté de la salle Perchaud en plein air, si le ciel le permet, avant l'orchestre de quartier, qui est aussi quelque chose dont je m'occupe avec les professeurs du conservatoire. L'orchestre de quartier, c'est un ensemble d'une vingtaine d'enfants de l'école du Pigeonnier, avec le soutien du contrat de ville, donc quelque chose qui est aidé et pris en compte dans la politique de la ville. Depuis 2 ans, donc ils ont 2 heures de musique par semaine dans ce cadre-là, directement en orchestre, sans solfège, sans instrument à la maison. Donc ils ne jouent qu'à ce moment-là et les résultats sont assez étonnants. Donc ils donnent assez souvent des concerts, notamment dans les rencontres départementales qui ont eu lieu au mois de février. Et c'est très très porteur, quoi. C'est vraiment quelque chose, ça donne accès à la musique, à des enfants qui, a priori, n'étaient pas destinés à ça.
Mais c'est pareil, les enfants adhèrent de la même façon ?
Ben là, ils sont un peu obligés, c'est en temps scolaire, c'est dans le projet de leur classe.
Oui, mais
ils jouent le jeu,
voilà.
et la plupart, ils trouvent du plaisir. Il y en a quelques-uns qui voilà, pour qui c'est un peu la contrainte. Mais globalement, en tout cas, le résultat à écouter et à voir, Il jouait à la médiathèque il n'y a pas très longtemps. C'est vraiment très étonnant. Voilà, avec une partie de slam, les enfants ont préparé des textes qu'ils slament en fait avec l'accompagnement de l'orchestre et ça marche plutôt bien.
Il faut donner un petit côté un petit peu plus moderne pour justement leur mettre le pied à étrier ou la base en elle-même suffit pour qu'ils soient intéressés.
Bah, disons que la base elle est un peu orientée hein. Dans le répertoire on a des choses vraiment proches d'eux hein. Susanna un peu moins mais Pirates des Caraïbes ils connaissent tous ça par cœur, donc c'est vrai qu'on choisit des choses qui sont proches d'eux forcément pour aller un petit peu dans leur sens, mais on officie aussi avec du sound painting, ce dont parlait David tout à l'heure. Une des professeurs, Gaëlle Vituro, s'est mise justement à ce langage de signes et fait improviser l'orchestre de façon tout à fait étonnante, avec quelques éléments du vocabulaire, pas tous, mais déjà en quelques sessions, ils se débrouillent et ils sont très attentifs. C'est un moment d'improvisation totale, donc là, il n'y a pas de... il n'y a pas de préparation, c'est chaque fois nouveau et c'est un petit peu différent de ce qu'ils font d'habitude. Mais il y a aussi Seven Nation Army, il y a des choses qui connaissent un peu tous. Je pense que ça plaît bien, ça marche bien.
Entre vous, le complément, il se fait comment avec David ?
Sur ce projet-là, sur l'orchestre, pour le moment, on n'a pas encore fait de partenariat, mais je pense que ça va arriver. Là, il y a 5 professeurs en fait, d'instruments du conservatoire qui participent à l'orchestre de quartier. C'est une séance par semaine, donc c'est sur leur temps de travail. Et pour le moment, David est tellement occupé qu'on ne va pas le sortir de ce montage. C'est une classe qui a mis un petit moment, la classe de musique actuelle, je tiens à en parler aussi, parce que c'est quelque chose qui a pris... ça fait 5 ou 6 ans qu'on souhaite avec Éric Doucet et... dans les directives de l'État en la matière du ministère de la Culture, les musiques actuelles, ça doit avoir une part importante au conservatoire. Et je pense qu'on commence maintenant à répondre à cette demande. Il y a eu plusieurs professeurs qui n'étaient pas forcément sur place, donc qui ont eu du mal à s'investir complètement, parce que ça demande en fait un investissement au-delà du temps de travail, au-delà des 20 heures de cours. Il y a énormément de coordination à faire, plus que dans les cours classiques qui sont un peu balisés déjà depuis longtemps, on va dire, pour faire cours. Mais là, il y a vraiment toute cette partie, justement, aujourd'hui, dans son temps de repos ou de préparation habituelle. Et il s'occupe de la promotion du projet. Et il est à la fois sur Digne et sur Manosque. On essaie d'avoir des partenariats aussi avec les structures de culturelles du département. Donc c'est la MJC de Manosque, c'est le Studio 57. Samedi soir, j'en ai pas encore parlé, mais je pense que David l'aurait fait. Samedi soir, premier concert des classes de musique actuelle à partir de
18h.
À partir de 18h, Studio 57 à Digne, donc l'école du sous-sol. C'est un partenariat qu'on souhaitait depuis longtemps, mais qu'on n'a pas réussi à mettre en place, faute de temps et de disponibilité des profs précédents. Et là, les effectifs à Digne sont plutôt convaincants, puisqu'il y a déjà 4 groupes constitués. Enfin, David vous en parlera mieux que moi, c'est lui le chef, là. Mais disons que nous, qui coordonnons ça et qui le souhaitons depuis longtemps, on est vraiment très satisfaits que ça arrive. Ça ne veut pas dire que c'est gagné, on a vraiment besoin de vous aussi pour promouvoir. Et la grosse difficulté de notre mission, c'est qu'on a des élèves qui sont des pré-adultes, qui vont quitter le territoire dans pas longtemps, donc l'année prochaine, on n'est même pas sûr d'avoir les groupes qu'on a cette année. Donc venez les écouter, venez les soutenir. Et David va vous parler de l'activité musique actuelle. Je voulais vous dire qu'en jazz aussi, il y a pas mal de choses. Et pour finir, parce qu'il y a énormément de choses, il y a un truc important, c'est le 13 juin, mercredi, toute la journée, porte ouverte du conservatoire à Digne, où vous pourrez assister un petit peu à tout ce qui se fait en danse, en théâtre, et en musique au conservatoire. Là, j'ai été vraiment plutôt sur les musiques actuelles. Et c'est l'occasion de rencontrer les profs en situation, les élèves en situation. Il y aura des animations donc, sur la place Générale de Gaulle, Café du Midi, Café du Millésime. Enfin, en face des cafés, il y a des terrasses. Donc, on joue en partenariat avec eux. Déambulation du brass band en ville. Il y aura orchestre symphonique, orchestre à cordes, orchestre à vent, à la médiathèque l'après-midi. des spectacles de danse pour enfants et initiation aux danses du monde, pardon, et danse classique. Voilà, beaucoup de choses. Cette journée-là, 13 juin, mercredi, à partir de 14h et jusqu'à l'aube, jusqu'à 20h30, quoi.
Voilà. Et juste pour les élèves, est-ce que les parents ont pas un droit de regard, mais peuvent les soutenir quand ils jouent avec vous, quand ils répètent?
Ah, mais complètement. Oui, sans les parents, d'ailleurs, c'est difficile d'arriver à quelque chose. Hein. C'est vrai que c'est un travail commun avec les parents qui soutiennent la plupart du temps, qui viennent aux répétitions le dimanche, quand il y en a, qui les amènent à tous les cours déjà toute l'année et aux événements qui sont quand même assez nombreux. On n'a pas le palais des congrès cette année, donc on s'est un petit peu limité. Mais à partir du moment du retour de la grande salle, à mon avis, ça va pas arrêter dans les prochaines années.
Il y a de belles perspectives pour vous, bientôt, très bientôt d'ailleurs, même très très proche. Et au niveau de quand vous répétez, il faut de l'espace.
Oui.
Et est-ce que au niveau mise dans l'espace, justement, les musiciens arrivent à se trouver?
C'est difficile. Ouais, on a des gros problèmes de locaux. On a les locaux qu'on a, hein, mais c'est l'ancienne mairie, donc on n'a pas de salle de diffusion. Mais heureusement, on a des partenaires qui sont très fidèles et qui nous soutiennent énormément. La médiathèque François Mitterrand du centre-ville, donc la médiathèque Interco P2A, qui nous accueille très régulièrement pour des interludes auxquels les musiques actuelles ont répondu dès l'arrivée de David assez fréquemment. On a un très beau partenariat avec eux. Le Palais des Congrès, la ville de Digne, le centre culturel, évidemment, René Char, qui est notre premier partenaire, je veux dire, de diffusion, et qui nous accueille à bras ouverts depuis une dizaine d'années de façon très fidèle, et on n'est pas non plus des professionnels de la diffusion, donc ils s'adaptent aussi à notre, manque d'expertise, je dirais. On n'est pas des artistes professionnels, donc même si la qualité est au rendez-vous la plupart du temps, il y a, voilà, tout l'aspect, c'est des élèves qui jouent, donc il faut... un petit peu plus de temps pour caler les choses, mais globalement on arrive quand même à de bons résultats. Et dans les années précédentes, les choses qu'on a pu faire au Palais des Congrès, qui nous manquent énormément, mais on n'est pas les seuls, des grands spectacles autour de la musique classique, donc les différents opéras, les choses qu'on a pu faire, mais aussi autour des Beatles, voilà, c'est ces grands projets qui nécessitent de l'espace et qui nous oblige à répéter en partie fractionnée, donc, et de se retrouver en fait au dernier moment pratiquement avec une répétition générale. C'est un exercice auquel on est habitué, mais qui est toujours délicat parce qu'on a affaire aussi à des élèves et qui sont tous très professionnels dans leur démarche, en tout cas.
Et vous, David, au niveau des salles, vous avez des problèmes ?
Mais moi, j'ai la chance d'occuper les locaux du sous-sol du conservatoire, dans lequel on a un espace quand même qui est largement suffisant pour le travail qu'on fait, qui est très bien équipé au niveau du son. La direction répond toujours positivement quand il y a besoin d'investir un petit peu dans du matériel en plus ou du nouveau matériel. Et c'est quand même très, très agréable et suffisant pour travailler, puisque sur les musiques actuelles, on est en général sur des petites formations. On va de 4, 5, 7 musiciens et pas beaucoup plus. Donc le sous-sol est vraiment bien adapté pour ça.
Et au niveau du son, c'est comment ?
Benoît Payard est passé par là. Il a fait ce qu'il faut au niveau de l'acoustique dans la salle. Donc c'est pareil, c'est vraiment très, très agréable, quoi.
Les élèves qui sont avec vous aussi ont un regard, une acuité particulière pour le son ? Parce que maintenant, on en a pas mal de facilité, entre guillemets, pour améliorer l'acoustique. Est-ce que les musiciens qui vont avec vous disent « Moi, ça me plaît, je veux me mettre là parce que là, ça sonne mieux
» Franchement, non. En général, ça vient plutôt de moi de lui dire que s'il se place là, il va mieux s'entendre. C'est pas lié qu'aux musiciens amateurs. Là, on parle des élèves, mais même dans le métier, professionnellement, on est souvent confronté au guitariste, par exemple, qui joue avec son ampli dans les talons. Donc forcément, il s'entend pas bien. Mais celui qui est à 2 mètres devant, lui, il entend très bien avec la projection sonore. Donc ça fait aussi partie de l'apprentissage de savoir comment disposer son matériel de manière à être dans une position confortable pour s'entendre et entendre les autres. sachant que j'ai coutume de dire qu'en général, c'est pas bien compliqué. Il suffit juste de vérifier qu'on entend bien tout le monde et qu'on s'entend pas trop fort, mais qu'on s'entend convenablement. Et à partir de là, si chacun fait cet effort, on arrive à un équilibre assez certain et rapidement. Quoi.
Vous mettez le musicien à la place de l'auditeur quand c'est comme ça ?
Dans la mesure du possible, on peut pas mettre le musicien en position de spectateur, mais on le met forcément, il est forcément en position d'auditeur quand il joue. Pour être en position de spectateur, c'est autre chose. Ça demande un autre recul et ça fait aussi partie de l'apprentissage. C'est pour ça que la scène, c'est très important. Et de s'enregistrer, de réécouter les choses qu'on a faites, c'est très important aussi. Et les élèves, comme nous tous musiciens d'ailleurs, hein, ou artistes, avons un regard et une écoute complètement différente quand on est en position de spectateur et en position d'acteur.
Et spectateur, il dit public, et le public, il ressent les choses en premier, quoi. Le musicien joue, il est intérieur, mais le public, il a un œil pareil comme ça, un petit peu indulgent au début.
Avec les élèves, je trouve pas qu'il soit très indulgent avec les élèves, justement. La plupart du temps, ils s'attendent à voir un spectacle professionnel et ils sont souvent assez assez durs avec les petites erreurs qui peuvent être faites, qui sont humaines, mais forcément qui sont un peu plus présentes chez quelqu'un qui est en phase d'apprentissage, même si quelque part on l'est tous, mais on est plus ou moins avancé sur le chemin. Et souvent, je trouve qu'ils manquent d'indulgence. Ils oublient que c'est des élèves. Alors peut-être que c'est parce que c'est presque tellement bien qu'ils en oublient qu'ils ont affaire à des élèves, mais souvent, ouais, ça manque un petit peu d'indulgence.
Avant de poursuivre, on continue un petit peu en musique, si vous voulez. Stand by my side.
Alors, Stand by my side, c'est une chanson qui est issue de mon troisième album, qui s'appelle Acoustic Songs About Fanny. Le morceau précédent, c'était l'album Our Time Has Come, qui était mon deuxième disque. Cet album-là est un peu différent. J'ai quand même un univers qui est très orienté vers tout ce qui est les musiques noires américaines, en ce qui concerne mes créations. Et sur cet album-là, j'ai eu envie de revenir aux premières amours, quand j'étais tout ado et que j'écoutais Bob Dylan ou que j'écoutais Roxette, des groupes de pop-rock. Et donc, c'est un album acoustique avec des chansons folk jouées guitare, voix et contrebasse.
Stand by my side, stand by my side, stand by my side, stand by my side. You've got all the time to remember many things about you to discover. And I'm laying down here, waiting for my bell to ring. You need to trust me more than ever, 'cause I trust you now and forever. And I'm writing a song, waiting for my love to tell. Stand by my side, stand by my side, stand by my side, stand by my side. You and I is just like magic, and I don't want to spend my time thinking about losing it. There's a hole in my soul, and my heart just calls your name. Stand by my side, stand by my side, stand by my side, stand by my side. Please don't lose your way, walking in the darkness. The love I have to give is full of happiness. And I'm writing this song for my heart to call your name. Hey, yeah. stand by my side. Stand by my side. Stand by my side. Stand by my side. Stand by my side.
Voilà Benoît, nous allons vous remercier pour Fréquence Mistral d'être venu dans notre studio. Nous aurons l'occasion de vous réentendre sur notre antenne. Et vous avez encore deux petits mots à dire ?
Non, non, avec plaisir, Jean-Marc. Je reviendrai dès que vous pouvez m'accueillir pour vous parler ponctuellement en fait, des deux, trois événements importants, à mon avis, pour le conservatoire d'ici la fin de cette année scolaire. Merci beaucoup pour votre accueil.
Merci, Benoît. À bientôt.
David, au revoir.
Alors David, un petit peu à vous, on va aller dans le cœur du sujet. Vous développez un peu, si vous voulez, ce que vous avez pu faire jusqu'à présent pour aller un petit peu plus en au fond des choses.
Oui, tout à fait. Bah, déjà, vu que j'ai la parole, j'en profite pour faire un petit peu la promotion des événements qui arrivent avec les musiques actuelles sur le conservatoire. Donc, conservatoire qui est sur deux antennes, hein, Digne et Manosque. Donc, on a des équipes différentes d'élèves sur les deux sites. Donc, on se voit aujourd'hui surtout parce que il y a un premier événement qui arrive ce samedi. La classe de musique actuelle de Digne fait son festival au Studio 57, donc en partenariat avec l'école du sous-sol, qu'on remercie encore de nous accueillir. On espère que ce partenariat va durer. On se retrouve de 18 à 20 heures. Vous aurez l'occasion d'écouter quatre groupes, Moon Taxi, Emaji, Cloquitani et Papier Bulle, qui sont donc quatre équipes de la classe de musique actuelle du conservatoire, et qui vous feront un concert entre 18 et 20 heures que vous pourrez accompagner d'un petit verre pour les écouter. Vous aurez aussi l'occasion, plus tôt dans la journée, samedi, à la salle Perchaud, au quartier du Pigeonnier, à partir de 14h15, d'entendre Les Petits Boucans, qui est un groupe de la classe de musique actuelle du conservatoire de Manosque, et d'entendre aussi les Moon Taxi, qui seront là le soir. Ensuite, dans les événements ouverts au public, parce qu'il se passe plein de choses, on a un partenariat avec le lycée David Nel le 24 mai, on va faire un petit concert aussi à la chapelle Saint-Pancras la semaine prochaine. Il y aura le 9 juin, samedi 9 juin, place Marcel Pagnol à Manosque. Il y aura toute la classe de musique actuelle, l'antenne de Digne et de Manosque, les six groupes qui seront présents pour un concert qui aura lieu entre 19h et 23h. Donc ça va être un événement vraiment sympa. On a invité aussi la MJC de Manosque à nous rejoindre parce que, j'en parlerai après, on a fait un petit partenariat cette année qui s'est plutôt bien passé. C'était vraiment très sympa. Ensuite, le 13 juin, Benoît en a parlé, mais donc c'est les portes ouvertes du conservatoire. En ce qui concerne les musiques actuelles, on se retrouve sur la terrasse du Café du Midi à partir de 18h30. Pareil pour un petit apéro-concert. Le 20 juin, ce sera les portes ouvertes de Manosque sur le parvis du conservatoire, dans le centre-ville. Les musiques actuelles seront présentes à partir de 19h30 et en partenariat avec la classe de musique actuelle de Thomas Rébard de la MJC, où nous avons monté un petit projet en commun avec 15 musiciens de la MJC et du conservatoire pour reprendre les Rolling Stones, les Guns N' Roses, les Rita Mitsouko. On a également les vents de la classe de jazz qui nous ont rejoints sur ce projet. Voilà, c'est très sympa. On a déjà joué à la MJC il y a un mois. C'était vraiment très sympa. Et on remet ça donc le 20 juin à Manosque à partir de 19h30. Et enfin, pour terminer, le 21 juin, pour la fête de la musique à Digne, il va se passer plein de choses. La classe de musique actuelle sera présente à la médiathèque, dans la cour de la médiathèque, de 18h à 20h. Vous aurez l'occasion d'entendre les quatre groupes qui jouent samedi soir. Et place de la Barlette, à partir de 19h15, si mes souvenirs sont exacts, il y aura aussi deux groupes de la classe de musique actuelle qui auront l'occasion de se produire. Ça, c'est en partenariat avec le Centre culturel. Une belle fête de la musique à Digne avec beaucoup de choses cette année dans le programme. Et voilà, je pense que ça va vraiment être une journée très sympa.
Au niveau des répertoires, la durée, quelle est-elle ?
Alors, au niveau des répertoires, en ce qui concerne le répertoire travaillé par les groupes, en fonction de des compétences, on va dire, de chacun, ce qu'on appelle les cycles aussi au conservatoire, du niveau de chaque musicien, On a l'occasion de s'approprier plus ou moins de répertoire. Il est évident qu'avec les petits qui ont 10 ans, on va plus tranquille, on est plus tranquille qu'avec des adultes ou des jeunes adultes. Mais en moyenne, ils terminent tous l'année avec 30 à 45 minutes de répertoire travaillé, un petit peu dans tous les styles. Voilà. J'aime bien que eux s'y retrouvent, comme disait Benoît tout à l'heure. Donc, ils ont le choix d'un morceau sur deux, en fait. Il y a un morceau sur deux qui relève de leur choix. Voilà, ils sont en micro-société, hein, c'est spécial, un groupe à monter humainement. Il y a toute une alchimie qui doit se faire, qui prend un petit peu de temps. Donc, ils choisissent un morceau sur deux et je choisis l'autre morceau. Voilà, ce qui fait que moi, j'adapte en fonction de ce qu'ils veulent jouer. J'adapte les parties pour le niveau de chaque musicien pour que tout le monde puisse s'y retrouver et avoir quelque chose à jouer qui ressemble à l'original, si ce n'est pas l'original. Et à côté de ça, moi, je choisis des morceaux dans d'autres registres parce que les musiques actuelles, on appelle ça musique actuelle amplifiée. C'est un terme générique, mais qui englobe un petit peu toutes les musiques depuis 70 ans ou presque, puisque même le jazz en fait partie, donc on peut même remonter encore à la fin du 19e siècle presque. Donc c'est très très vaste. Voilà, c'est vrai que quand on est dans la musique classique ou la musique baroque, on a des courants, souvent on tape dans des courants et c'est la musique se ressemble, j'ai envie de dire. En tout cas, donc dans les musiques actuelles, avec l'avènement des dernières années et l'amplification, les nouveaux instruments qui sont arrivés sur le dernier siècle, comme la batterie ou la guitare électrique, il y a tellement d'esthétiques différentes qui ont été créées sur les 70 dernières années que ben moi, ma mission, c'est un petit peu de faire explorer ces esthétiques aux élèves que j'ai dans mes classes. Donc on va faire de la pop, on va faire du rock, on va faire du funk, de la soul, du reggae, du punk, du hard rock, du metal. On va essayer d'explorer un petit peu tout.
Et justement, il y a un répertoire, mais le public, vous ne connaissez pas forcément qui va être en face de vous. Est-ce qu'il y a un répertoire qui peut différer par rapport à ce public qui... Je parle pas de hard rockers qui peuvent se déplacer et vous muscler votre musique jusqu'à ce que leurs oreilles puissent être contentées. Mais est-ce qu'il y a un répertoire qui peut différer selon le public?
Non, je vais dire non. C'est plutôt le public qui va devoir s'adapter au répertoire, puisque justement, comme je viens de le dire, ils ont tous un répertoire très varié. Donc, ils vont faire une chanson française de Zazie, et puis juste après, ils vont faire un morceau des Stones. Donc, c'est absolument varié. Donc, le public doit venir avec un peu cette ouverture d'esprit et pas attendre une esthétique particulière.
Il peut pas y avoir plus de Stones que de Zazie selon le public. C'est établi d'avance.
Bah, disons que les élèves ont travaillé justement, ils ont travaillé sur les différents titres. Donc, et de toute façon, je pense pas qu'on aurait l'occasion d'avoir juste une esthétique possible sur un événement, puisque quand ils ont travaillé 7 ou 8 morceaux dans l'année, justement, souvent c'est 7 ou 8 morceaux radicalement différents, quoi. Donc non, on est plutôt dans la présentation d'un melting pot de différentes esthétiques et c'est voilà, c'est au public de venir apprécier ça, mais ça se passe toujours très bien. Hein. Les gens aiment bien justement passer d'un truc français au truc un peu rock américain, passer au reggae juste après. En général, ça les dérange pas.
Ouais. Est-ce qu'au niveau courant musical, dans vos élèves, il y a des courants qui prennent plus le pas que d'autres?
Chez certains élèves, oui, il y en a qui viennent avec une intention de pratiquer une musique particulière, évidemment. Mais justement, la richesse d'un style vient toujours du travail qu'on a fait dans les autres styles. Quand j'ai commencé la musique, en professeur de piano jazz, j'avais Emmanuel Bex, et j'étais très jeune, et qui m'avait dit « Tout ce que vous avez l'occasion d'aller jouer, allez le jouer, parce que c'est ça qui viendra nourrir votre jazz. » Et finalement, j'en reviens un petit peu à ça. C'est-à-dire que même si j'ai envie de jouer que du métal, si je me retrouve à jouer du funk, rythmiquement, je vais avoir des choses à travailler qui peuvent être très intéressantes et qui vont me permettre de mieux jouer mon métal, finalement.
C'est toujours la même chose de faire des gammes et des gammes, on peut faire tout ce qu'on veut après.
Oui, faire des gammes, faire du rythme et surtout beaucoup écouter. Avoir une belle culture musicale, c'est très important. Donc c'est pareil, ça fait partie des cours, ça fait partie des choses à faire découvrir aux élèves, les inviter à aller écouter des disques, à découvrir des artistes. Surtout qu'on arrive dans une nouvelle génération depuis une dizaine d'années où les références ont changé ou sont inexistantes pour certains, ce qui n'était pas le cas avant. Moi, j'enseigne depuis 17 ans. Il y a 17 ans, quand je parlais de Michael Jackson, je n'avais pas besoin d'expliquer qui c'était, ni James Brown. Aujourd'hui, ça m'arrive d'avoir à le faire. Donc, Michael Jackson, ouais, c'est il y a 5 ans déjà, Michael Jackson, on m'a dit c'est qui Michael Jackson. Donc ça arrive. Prince, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, c'est un peu pareil. Il y en a beaucoup qui se demandent un petit peu. Ils connaissent de loin une chanson qui s'appelle Purple Rain. Pour le reste, ils ne savent pas trop.
Purple Rain, ça fait plus de 30 ans. Quoi.
Voilà. Alors, si après je remonte encore plus dans le temps et qu'on a envie de parler des Stones, de Led Zeppelin, de groupes français rock comme Triangle ou Martin Circus, si je pousse le bouchon, là, on n'en parle même pas. C'est, tout est à faire. Mais c'est important. C'est important de savoir d'où on vient pour savoir comment on joue la musique qu'on a décidé de jouer. Donc il faut avoir ces références culturelles. Le conservatoire, quand on va apprendre la musique au conservatoire ou ailleurs, c'est aussi ces choses-là dont on est en demande. Moi, le premier, dans toute ma période où j'étais en apprentissage, j'étais friand d'apprendre le nom d'un nouveau disque, d'un artiste que je connaissais pas, d'une musique qui me plaisait, puis qui me faisait aller vers une autre musique. Et c'est important.
Ben, c'est étonnant parce que pour la connaissance de la musique et des musiciens, on a un certain âge, hein, et on passe le relais. Et c'était plus compliqué, nous, avant d'aller chercher la musique, puisqu'il fallait aller chez les disquaires, fallait écouter les disques. Maintenant, actuellement, ils ont tout à portée de main et à portée d'oreille. Après, c'est la curiosité qui est moindre par rapport à ce qu'on a pu vivre, nous, ou d'autres, bien entendu.
Oui, alors moi, je vais avoir 43 ans, donc je le précise pour les auditeurs, parce que oui, en effet, moi, je fais partie des gens qui ont commencé chez les disquaires, chez les disquaires d'occasion, à l'époque à Paris, à aller fouiner, pouvoir passer 4 heures dans une boutique, à chercher le disque qui va nous plaire. Je pense que juste la démarche était différente, puisqu'on n'avait pas énormément de références sous les yeux, c'était nous qui allions les chercher. Par ailleurs, on n'avait pas non plus toute la musique disponible, on avait celle qu'on avait achetée. Donc même quand on achetait un disque qui finalement nous décevait un petit peu, bah, on l'écoutait quand même parce que on avait dépensé notre argent de poche pour l'acheter. Et puis il nous arrivait souvent d'apprendre à apprécier, de se rendre compte que finalement au bout d'une dizaine d'écoutes, j'aime beaucoup ce que j'entends et la première fois ça m'a pas plu. Et que des fois il y a certaines musiques on a besoin de rentrer un peu dans l'intimité de l'artiste et de ses choix pour arriver à apprécier les sons qu'on entend. Et je pense aussi que de ce fait-là, on allait peut-être plus loin dans l'écoute que ce qui se fait aujourd'hui. Moi, je le vois bien avec les élèves. La plupart, ils écoutent un titre d'un artiste et puis s'ils l'écoutent entièrement, déjà, et puis ils vont pas beaucoup plus loin. On avait peut-être aussi une musique un peu plus variée en radio que ce qu'on a aujourd'hui et dans les médias, aussi bien que ce qui était proposé par le music business, hein, par l'industrie musicale, où c'était quand même plus varié. Je me souviens bien dans les années 80, il se passait quand même des choses différentes sur la même radio. On pouvait entendre vraiment des esthétiques très différentes. Aujourd'hui, à chaque fois que j'allume la télévision, si j'ai pas l'artiste américain pop du moment, j'ai l'impression de toujours entendre un peu les mêmes choses à base de pseudo rap, on sait pas trop, voilà, des choses qui sont d'un goût relativement douteux des fois, je trouve, y compris en ce qui concerne les textes, voire choquant parfois, et c'est ça tout le temps, en boucle, tout le temps. Donc du coup, on donne pas l'opportunité à l'auditeur d'entendre d'autres choses, d'entendre d'autres sons et du coup d'aller à la rencontre d'autres musiques.
Sans parler de fréquence Mistral pour laquelle nous essayons de varier un maximum l'écoute, une chaîne comme Arte justement a un rôle un petit peu pédagogique de ce côté-là. Ils vont fouiner très loin, ils essayent d'adapter, puis ils mettent des musiciens actuels qui sont influencés par ce qui a pu se faire auparavant pour essayer de faire une culture un peu différente de ce qu'il y a sur les autres chaînes.
Ben oui, je suis d'accord. Et malheureusement, je mettrais plutôt ça dans l'exception qui confirme la règle en ce qui concerne les grands médias. Et après, c'est à nous aussi de justement de dire aux élèves, tiens, va regarder ce reportage, va regarder ça, c'est intéressant. Maintenant, est-ce que nos jeunes aujourd'hui vont regarder Arte? Je suis pas certain. Voilà.
Ben c'est bien dommage. Pourtant, la démarche est simple. Hein. Il suffit de mettre 7. Un beau chiffre, en plus, le chiffre 7. Donc, il y a normalement tout est réuni pour essayer d'apporter un plus par rapport aux téléspectateurs.
Je suis d'accord. Mais si je peux me permettre, en marge de ce qu'on dit, comme j'enseigne aussi le chant au conservatoire, donc ce qui est jazz vocal et chant musique actuelle, et on est confronté à un mouvement aussi, comment dire, du temps, dans l'air du temps, en ce qui concerne les chanteurs, par exemple. Pour moi, ça va un petit peu dans le même sens que la musique, que ce qu'on écoute aujourd'hui. Où, en fait, aujourd'hui, quand vous allumez un télécrochet, on a l'impression qu'on est juste dans la performance vocale. C'est la seule chose qu'on recherche. Ce qu'on appelle, nous, les coachs vocaux, on appelle ça l'exploit laryngé. C'est-à-dire, à un moment, je vais aller chercher cette note-là qui va absolument bluffer tout le monde. Et on n'est plus dans l'émotion, dans la façon dont le chanteur est censé raconter sa chanson, la façon dont il va vivre son texte. J'ai pas l'impression qu'il y ait un seul exploit laryngé sur Ne me quitte pas de Jacques Brel, et je peux l'écouter 100 fois de suite, 100 fois j'ai les poils qui se dressent sur les bras, et c'est ça que j'attends d'un chanteur. Et je trouve qu'il y a vraiment une responsabilité des médias dans ce qu'ils proposent sur la façon de faire l'art et la façon de le recevoir. Et je trouve ça dommage qu'aujourd'hui on soit tout le temps dans cette surenchère de performance technique, finalement, hein, et pas dans la vérité de l'artiste, de ce qu'il est à l'intérieur et de ce qu'il a envie de raconter avec sa vie, son parcours et ses cicatrices.
Toujours un petit peu la culture de l'immédiat, quoi. On ne sait pas ce qu'il y a avant, après on s'en fout.
Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça.
Alors on continue avec ce que vous avez pu mener comme musique, The Way I Feel. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots?
Alors The Way I Feel, c'est une chanson qui fait partie de mon deuxième album, Time Has Come. Et je l'ai choisie parce que c'est souvent la chanson qui ressort du public qui découvre ce disque. Et aussi d'ailleurs une des meilleures ventes sur iTunes pour moi. Donc c'est un morceau qui touche les gens, c'est un morceau qui a une histoire, parce que c'est un morceau qui à la base ne devait pas faire partie de l'album, je le trouvais pas assez bien, et finalement il a trouvé sa place parce qu'il servait mieux le concept de ce disque que le morceau qui était là à sa place, et puis en fait bah, finalement vu l'accueil du public j'aurais eu tort de m'en priver. When I walk down the street every day,
The Way I Feel par David Carrion, qui est pas percussionniste mais pianiste, donc David Carrion qui est sur les ondes de Fréquence Mistral à Digne-les-Bains. Et pour continuer votre émission, vous, au niveau influence, je vois que vous avez fait la Bill Evans Piano Academy. L'influence de Bill Evans dans votre jeu de pianiste, il est très important.
Entre autres, l'influence de Bill Evans, très important. Grand pianiste de l'histoire du jazz, hein, qui a un petit peu changé, voire beaucoup, la façon de jouer le piano dans cette musique. Donc oui, grande influence. C'est une école qui s'appelait comme ça, mais qui explorait, enfin qui s'appelle toujours comme ça d'ailleurs, mais qui explore les différents types de jeux de piano dans le jazz. C'est Bernard Maury, malheureusement, qui nous a quittés, qui pilotait cette école, qui était un grand musicien, un grand chef de l'harmonie à travers le monde et qui a été élève de Bill Evans lui-même. Donc, on a pu apprendre en direct les quelques petits trucs de Bill Evans, oui.
Et qui dit Bill Evans dit Miles Davis.
Ah oui, qui dit Bill Evans dit Miles Davis, qui dit Miles Davis dit John Coltrane, Cannonball Adderley, Wynton Kelly, et on en passe, Tony Williams. Le jazz, c'est une musique très très riche, à laquelle je suis venu presque par hasard. Quand j'ai décidé de me former sur les musiques actuelles, j'ai pas trouvé d'école sur Paris qui me proposait ce que j'avais envie, et j'avais la sensation que dans le jazz il y avait tout le matériel dont j'avais besoin, donc je me suis dit je vais aller apprendre le jazz et puis avec ça je saurais quoi faire pour aller jouer de la pop ou de la soul. Et puis en fait je suis tombé complètement amoureux de cette musique que je pratique avec beaucoup d'amour et qui est très exigeante, qui est une musique très exigeante. Mais qui permet aussi un apprentissage constant de nouvelles choses. On n'a jamais fini d'apprendre avec le jazz.
Et au niveau de Miles Davis, quelles que soient les différentes époques, parce qu'il a varié beaucoup sa musique, électrique, un petit peu plus cool, tout ça, là-dedans, vous arrivez toujours à piocher ?
Absolument. Alors surtout Miles Davis, s'il y a vraiment quelqu'un chez qui on peut piocher, c'est Miles Davis. Comme il le disait lui-même dans son autobiographie, il a inventé 3 fois le jazz. Et il y a quelque chose d'un petit peu vrai là-dedans, dans le sens où il a toujours bien su s'entourer des nouveaux musiciens qui proposaient quelque chose de neuf. Et il a bien su aussi prendre en cours les différents courants qui étaient parallèles au jazz et les mettre dans le jazz et faire du jazz avec ça.
Et vous, les musiciens, pour vous épauler, vous les trouvez facilement ?
Les musiciens pour nous épauler, oui, on les trouve assez facilement. C'est toujours pareil, hein, la musique, c'est une vraie micro-société. On a tendance à vivre les uns sur les autres quand on se retrouve en tournée, quand on est dans des périodes de résidence ou de répétition ou de création. Donc c'est important de trouver des gens avec qui on s'entend très très bien, avec qui musicalement on a des affinités forcément, mais surtout avec qui humainement on peut être capable d'avoir la même vie qu'une vie de couple. Voilà, être capable d'être l'un sur l'autre pendant des heures et des heures et en continuant de s'apprécier et de s'aimer.
Ah oui, dans la musique, il y a beaucoup de silence, c'est comme dans les couples.
Est-ce qu'il y a beaucoup de silence dans les couples ? Pas dans le mien, j'ai l'impression. Mais oui, dans la musique, c'est un petit peu spécial. Mais il faut juste trouver les bonnes personnes. Voilà. Là, je sais que, par exemple, je travaille avec Don Biez, dont on passera un morceau tout à l'heure. Michel Biez, qui est devenu un grand ami, qui vient de fêter ses 60 ans, n'est-ce pas ? Et on lui passe le bonjour. Et qui est quelqu'un avec qui je me suis retrouvé la première fois. Je venais faire un dépannage sur une affaire qu'il avait. Il y avait un concert prévu et puis il avait pas le pianiste chanteur qu'il avait habituellement. Et de dernière minute, par l'intermédiaire d'un ami, il m'a appelé. On s'est retrouvé sur un concert sans répétition. On a décidé du répertoire pendant les balances et la magie a opéré tout de suite. C'était incroyable, quoi. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, 12 ans plus tard, quand on joue ensemble, on a toujours cette même fraîcheur qu'on avait au début.
Oui, Michel Biez, très exigeant au niveau musical, mais ça, il a un cœur énorme. Et quand il joue et qu'il sait s'entourer comme avec vous, ça s'entend de manière.
Ah, c'est un personnage, c'est un personnage très très particulier, un énorme charisme, une grande présence scénique, un grand cœur, vraiment un très bel être humain. C'est quelqu'un que j'adore et voilà, ça fait 12 ans qu'on arpente les les scènes du Luberon, des Alpes de Haute-Provence et des Bouches-du-Rhône et du Var, et puis ailleurs d'ailleurs, même en France. Cette année, on va bouger un petit peu aussi, on va aller plutôt vers le sud-ouest, en Espagne. Et c'est toujours un grand plaisir, un grand bonheur de se retrouver, et la musique fonctionne toujours très facilement.
On reviendra sur Don Billiez, juste deux mots pour son album Echoes of Magic Trips de SQ5 qui viendra en direct sur Fréquence Mistral Digne-les-Bains vendredi 1er juin à partir de 16h15 pour nous présenter cet album et parler du morceau dont nous parlerons ensemble tout à l'heure qui s'appelle Le jour d'après Bataclan.
Oui, tout à fait.
On va continuer un petit peu en musique. Vous avez mené pas mal de choses que vous avez pu faire jusqu'à présent, notamment ce morceau, enfin c'est Sam Favreau.
Ah, Sam Favreau. Parlons-en rapidement. Sam Favreau, c'est un ami de longue date, bassiste marseillais très très connu dans le milieu des musiciens et qui a monté un projet funk avec lequel on a travaillé pendant quelques années, qui aujourd'hui c'est un petit peu éteint, mais qui à l'époque a été très très vivace. Donc projet de groupe funk inspiré de Maceo Parker, voilà, de James Brown, et voilà, on a co-signé la plupart des musiques, les textes, et puis c'était un groupe très très dynamique et un album enregistré live.
Et oui, comme vous avez pu entendre le public, cet enregistrement live, c'est simple à mettre en place tout ceci quand on joue en public ?
Non. Non, c'est pas simple, ça demande du travail. On avait fait une belle résidence juste avant, c'est un groupe qui avait bien répété, qui avait déjà joué un peu avant l'enregistrement du disque. Et c'est un exercice tout particulier de savoir qu'on est en train d'enregistrer un album au moment où on se retrouve en live devant les gens, avec déjà la pression du concert. Et en plus, la pression, du coup, de l'erreur, parce qu'on est en live, on n'a pas droit à l'erreur.
Est-ce qu'on prend conscience, une fois que le concert est lancé, qu'il y a cet enregistrement qui tourne, qui court ?
On en prend bien conscience avant que le concert soit lancé, on va dire. Et heureusement, une fois que la musique opère sa magie, on arrive à oublier un petit peu tout ça. Moi, en tant que chanteur et claviériste sur ce projet, il y a le chant, les claviers, l'orgue à gérer avec toutes les choses qu'il y a à faire dans la musique, les changements de son et en même temps arriver à leader le groupe, quoi, étant le chanteur. C'est un exercice vraiment très particulier, ouais, beaucoup de concentration.
Enfin, la scène, vous connaissez beaucoup, vous tournez énormément, comme vous en avez parlé tout à l'heure, oui, avec Michel Biliez, que ce soit surtout avec Lou Jam essentiellement. Vous pratiquez la scène régulièrement, ça c'est un moteur pour vous?
C'est un peu le tout, hein. Je crois que si on fait de la musique, c'est pour se retrouver face au public et partager quelque chose avec un public en face. D'ailleurs, le public, les gens sont toujours en train de venir nous voir à la fin en nous disant merci, et à chaque fois je leur réponds en disant mais merci à vous, merci d'être venu, parce que si vous êtes pas là, je sers à rien. Donc c'est un échange de bons procédés. Voilà, on leur donne un peu d'amour et puis ils nous le renvoient.
Ça vous est jamais arrivé comme dans les Blues Brothers? De prendre des canettes et de mettre un grillage pour pas être éclaboussé?
Ça m'est jamais arrivé, non. J'ai de la chance.
Et les musiciens qui avec lesquels vous jouez, c'est pareil. Bon, là, vous parliez de Sam Favreau pour Marseille. Vous bougez pour essayer de trouver des musiciens avec qui vous avez plus d'affinité que d'autres, selon les groupes avec lesquels vous jouez?
Alors, en fait, on cherche pas trop les musiciens. Enfin, je vais parler pour moi parce qu'on est tous différents. J'ai jamais vraiment cherché les musiciens. Quand on pratique beaucoup de scènes, on se retrouve beaucoup à faire des piges, comme on dit, hein. C'est-à-dire, il y a besoin d'un pianiste ici, le mien il est malade, tu peux venir, on m'a donné ton numéro. Et on vient, on s'approprie le répertoire, des fois en temps réel, hein, devant le public. Ça demande une certaine compétence. Et en fait, c'est des rencontres, hein. On parlait du couple tout à l'heure, c'est pareil, c'est des rencontres. On se retrouve dans un groupe et puis on... Et puis là, on ne sait pas, avec le guitariste, le bassiste, il se passe un truc, on a l'impression presque de déjà le connaître, alors que c'est la première rencontre, et on sait tout de suite qu'on va avoir envie de faire des choses ensemble.
Il y a des musiciens que vous retrouvez après, que vous avez vus lors de vos concerts, comme ça, qui peuvent jouer avec vous?
Oui, ça arrive. Ça arrive même des gens, des fois, avec qui on a joué il y a 15 ans, et puis qu'on recroise à l'occasion d'un projet et qu'on redécouvre.
Vous parliez de Lou Jam et de Don Biliez.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur... Vous êtes venu vraiment avec beaucoup de musique aujourd'hui, et on finira tout à l'heure avec le morceau le jour d'après. Là, le morceau que vous présentez de Lou Jam, parce que dans Lou Jam, vous faites beaucoup de reprises essentiellement.
Alors, Lou Jam, c'est un groupe de reprises, tout à fait. Basé sur un répertoire de musique noire américaine. C'est de la soul, du funk, du jazz funk. C'est un groupe qui porte bien son nom, hein. Tout à l'heure, Benoît expliquait ce qu'était une jam session. Et Lou Jam, c'est un petit peu ça. C'est un groupe avec lequel on n'a jamais répété, disons-le. L'idée, c'est justement d'arriver très frais, de prendre les harmonies, la mélodie d'une chanson, éventuellement quelques parties des instruments. Mais on essaie de s'appliquer à toujours jouer la chanson différemment à chaque fois. Il y en a souvent un qui va lancer une intro avec un différent groove que ce qu'on connaît sur la chanson. Et puis on essaye de se caler là-dessus et de s'appliquer à créer un truc en temps réel, avec des ouvertures sur les improvisations comme on peut en trouver dans le jazz. Mais une démarche un peu, voilà, un peu jazz, quoi. C'est la différence d'un orchestre où l'orchestre va reprendre le disque le plus fidèlement possible. C'est tout à leur honneur, mais c'est une autre démarche. Nous, on est dans une démarche un peu plus de liberté, d'amusement, vraiment de fun. Ça s'appelle Lou Jam, on est là pour s'amuser. Et s'il y a des musiciens qui sont dans le public et qui ont envie de venir jouer, ils sont les bienvenus aussi.
Et qui, justement, pour nous musiciens, qui sont-ils avec vous?
Alors, Lou Jam, c'est Don Biliez, hein, on en parlait. Donc moi-même au clavier et au chant, Pierre Fayol à la basse, et Arthur Biliez, le fils de Michel, à la batterie.
Et Freddy Cimbolotti?
Alors Freddy Cimbolotti, oui, qui est venu jouer avec nous pendant 2 ans. Pendant 2 ans qu'a pris la place de Pierre dans le groupe, et Pierre est revenu juste après. Voilà.
Et le morceau que nous vous proposons?
Alors, c'est un morceau donc qui a été enregistré live, encore une fois, puisque Lou Jam, qui aurait enregistré pas live, ça voulait pas dire grand-chose. C'est une chanson d'un pianiste-chanteur américain qui s'appelle Frank McComb, qui faisait partie d'un groupe qui s'appelait Buckshot Le Funk avec Branford Marsalis, donc des influences très jazz. Une très belle chanson qui s'appelle Another Day et qu'on joue depuis quelques années avec Lou Jam.
Another day, staring out to my window, thinking about tomorrow, wishing things would clear. No need to rush, 'cause I ain't gonna worry anymore. My sorrow is bound to disappear. But sometimes I tell myself I'm better off without you. And then I realize the emptiness I feel inside without you. Get through another day. I need a way to find the truth within me. Accept the fact that I love you, my blue eternity. See, what doesn't kill you makes you stronger. Must have the heart of a lion, sifting through love's remains. But sometimes I tell myself I'm better off without you. And I find a way to make it through another day. Another day. living just another day.
Fréquence Mistral 99.3, ma radio, mon pays. Pour nous contacter, digne@fréquencemistral.com.
Et on continue sur Fréquence Mistral avec David Carillon. La Just Another Day qui était enregistrée en public, c'est compliqué à chanter sur scène avec, puisque ce ne sont pas des compositions, ce sont des reprises. Comment ça marche?
Ça marche que quand on est habitué à chanter, on est habitué à s'approprier les chansons des autres. Si on les choisit dans le répertoire, c'est qu'elles nous touchent déjà, un peu comme si on les avait écrites. Des fois, on aimerait bien les avoir écrites. Et non, c'est pas très compliqué de s'approprier une chanson.
Et vous concertez pareil, parce que comme tout à l'heure pour vos élèves qui ont des affinités avec des morceaux, vous avez des affinités par rapport à Arthur, par rapport à Michel. Ainsi de suite, par rapport aux morceaux qui tournent le mieux.
Ouais, en fait, c'est très très simple le choix des morceaux. On fait une boucle par email. Quand il y en a un qui a un coup de cœur, il envoie aux autres. Il dit qu'est-ce que vous en pensez, et puis voilà, on se concerte, on valide.
Vous êtes loin les uns des autres?
Un petit peu, surtout Pierre. Pierre est à côté d'Avignon, donc c'est pas tout à fait à côté. Moi, je suis à Sisteron. Arthur, il est à Marseille, et Michel dans le Luberon, vers Pertuis. Donc, mais bon, c'est un peu la région qui veut ça. Hein. Les musiciens sont habitués à se retrouver et à faire un petit peu de route pour jouer ensemble. Et
pour jouer ensemble, c'est facile. Pas forcément d'être tous les quatre, mais pour trouver des dates.
Alors pour trouver les dates, c'est très difficile, moi je trouve. C'est d'ailleurs bien pour ça que je m'en suis jamais vraiment occupé, j'avoue. Et en tout cas dans Loot Jam, c'est vraiment Michel Billès qui s'occupe vraiment de trouver les concerts. Il est fabuleux, il arrive toujours à trouver une quarantaine de dates par an, qui rentrent aussi dans un budget de groupe, hein, parce que forcément le budget c'est important aussi. Et Michel fait ça très très bien.
Et prochain concert pour Loot Jam, bientôt?
Prochain concert pour Loot Jam, la semaine prochaine, samedi prochain à la Bastide des Jourdans, donc Luberon. La semaine d'après aussi le samedi, mais j'avoue que je ne sais plus trop où, il faut que je regarde l'agenda. En tout cas, on est dans une période où... Comme chaque Provençal le sait, c'est la saison qui arrive, les beaux jours. Enfin, on a envie que le soleil s'installe. Et du coup, tous les partenaires qui ont envie d'organiser des concerts commencent à être actifs. Donc, à partir du mois de mai, Loot Jam, ça joue toutes les semaines ou plusieurs fois par semaine jusqu'au mois de septembre.
Et selon les conditions climatiques, s'il pleut, comment vous faites?
Ça dépend si l'organisateur a prévu un abri ou pas. Ça nous est arrivé quelques fois de se retrouver sans abri et de prendre l'orage. Et dans ces cas-là, on a toujours eu une grande solidarité du public. C'était assez fou. Les gens qui se ruaient vers nous et en disant « qu'est-ce que je peux porter ?» Et en moins de 30 secondes, la scène était vide.
Eh oui, parce que orage, électricité, parce que vous jouez du clavier, vous jouez pas du piano acoustique, et tout ça, faut l'amplifier.
Oui, il faut l'amplifier, donc il faut avoir la sono sur place, il faut avoir de quoi diffuser le son. Et oui, on a eu tous eu, je crois, chaque musicien a eu quelques mauvaises surprises avec du contact électrique et de l'eau qui n'était pas bienvenue.
Et vous avez joué donc avec Sam Favo Funk Orchestra et Loot Jam au Maroc. Et comment ça s'est passé là-bas?
Alors, Loot Jam, c'était pas au Maroc, ça, c'était avec Sam Favreau. Le Maroc, c'était super. On est arrivé en mégastar, alors que personne nous connaît. Il y avait les affiches partout dans la ville. On a joué dans un club là-bas qui s'appelait le Pietri pendant toute une semaine. C'était super. L'accueil des gens était super. On a vraiment passé une semaine formidable. Ça, c'était avec Sam Favreau, Cédric Beck et David Gutiérrez, qui sont aussi des musiciens renommés.
Vous vous expatriez souvent comme ça pour jouer?
Alors, fut une époque, oui, beaucoup, moins aujourd'hui. Justement, j'ai, comme je disais en début d'émission, le, Le conservatoire, ça a été un vrai choix de carrière. Je viens de passer presque 25 ans de ma vie à arpenter les routes de France, de Navarre, d'Europe et du monde entier sur différents projets qui vont de la musique contemporaine à la chanson, au sound painting, au funk, vraiment plein de choses différentes. Donc j'ai pas mal voyagé avec ça. Et là maintenant, j'ai décidé un peu plus de me poser et dans la région, ça me va très bien. Voilà.
Tout à l'heure, Benoît Payard parlait de la musique du Balkan qui a une part de plus en plus prépondérante dans la musique européenne. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres musiques que vous avez pu piocher un peu à droite et à gauche qui est pas forcément connue du public, qui a une essence primordiale pour la musique européenne ou qui pourrait l'être du moins?
Je sais pas, je crois que les mélanges de styles et d'esthétiques ont été pas mal explorés ces 20-30 dernières années, y compris dans les registres non jazz, j'ai envie de dire, parce que le jazz est quand même la musique expérimentale par excellence, et les musiciens de jazz se sont pas gênés depuis toujours pour aller explorer les autres esthétiques, les autres voix et les mêler à leur musique et à leur discours. Ouais, je pense qu'il y a plein de groupes quand même qui ont fait part de ce mélange, aussi bien avec les musiques, tout ce qui va être les musiques arabes, les musiques du Maghreb, qui sont venues quand même beaucoup habiter les musiques occidentales, on va dire, dans les années 80. Hein, si je pense à quelqu'un comme Prince, par exemple, que j'apprécie particulièrement, je connais bien sa musique, mais à partir de 1983-84, on commence à entendre les percussions arabes, du oud, des choses comme ça dans sa musique. Donc c'est pas qu'une influence de gamme ou de mode, c'est aussi une influence de sonorité de par les instruments. Dans le jazz, si les gens sont curieux de ça, il y a un artiste qui s'appelle Rabbi Abou Khalil, qui joue du oud, du luth, et qui fait une musique métissée entre les musiques de son pays, musique du Maghreb et le jazz, et qui fait aussi des groupes avec une moitié de musiciens occidentaux et une moitié de musiciens arabes, et il y a vraiment des moments magiques dans ses albums.
Tout à l'heure, vous parliez de Led Zeppelin. Et l'influence de Led Zeppelin, c'est aussi le Maroc. Un morceau comme Cachemire qui date de 1975, c'est pas jeune, c'est 43 ans, c'est pas un précurseur de tout ça?
Un précurseur, ça fait partie des précurseurs, on va dire. Mais c'est vrai que si on regarde même chez les Beatles, hein, on a bien vu l'influence des voyages. Je crois que tout ça, c'est lié au voyage. À partir du moment où on se retrouve sur une terre qu'on connaît pas et qu'on rencontre des êtres humains avec une autre culture, des fois une gentillesse exacerbée par rapport à ce qu'on a connu, forcément, on a envie de s'inspirer de ça, de ramener un petit peu de ça avec nous, et ça vient nourrir nos créations.
Vous citiez Rabbi Abou Khalil avec son oud. Quand vous faites entendre ça à des élèves qui n'ont pas forcément l'habitude d'entendre cette sonorité, ils réagissent comment ?
Ouais, ils sont en général assez ouverts. La plupart, ils ont quand même déjà entendu ça, entendu cet instrument. Après, ils sont assez ouverts sur les musiques qu'on leur propose. Est-ce que ça va devenir des musiques qu'ils ont envie d'écouter ? Ça, c'est autre chose. Et de toute façon, c'est pas le problème. Là, il y a une différence entre le goût et la culture. Savoir que les choses existent, c'est important. Et après, mettre le CD qu'on a envie de mettre, ou le streaming qu'on a envie de mettre dans la voiture, c'est encore autre chose.
Et pour revenir aux élèves, tout à l'heure, nous discutions hors antenne du fait de la musique qui pouvait être mise à portée de main, qu'on écoute ou qu'on n'écoute pas. La sensibilité de chacun, là maintenant, c'est plus je prends, mais j'écoute pas forcément. Comment vous ressentez ça, vous ?
Oui, il y a un petit peu de ça. Ça, c'est pareil, ça dépend les personnes. Il y a des élèves qui sont plus intrigués, plus curieux que d'autres, forcément, hein, mais il y en a toujours eu, hein, j'ai envie de dire. Après, encore une fois, souvent, ils sont étonnés de certaines choses qui existent, auxquelles ils ont déjà accès. Je crois tout simplement qu'il y a trop de choses, en fait, pour pouvoir faire le tri nous-mêmes, et que peut-être que nous aussi, on aurait été perdus si on avait été confrontés à cette espèce de pléthore de musique partout, d'artistes partout. Moi, le premier, quand des fois je cherche un nouvel artiste dans une esthétique particulière, mais même pour moi, c'est pas facile d'aller découvrir des gens nouveaux. Il y en a tellement, en fait.
Est-ce que vous les incitez d'aller chez des disquaires comme Boîte à Musique, à Musical Box, à Digne, par exemple ?
Alors, chez les disquaires, c'est particulier. Pour eux, ça fait, en tout cas pour nos ados, c'est la cassette pour nous ou la VHS. Le disque, c'est quelque chose qui n'existe pas pour eux la plupart du temps. Donc, quand moi je leur offre un disque à Noël, un de mes albums, ils ont le CD. Il y en a, je vois bien qu'ils sont pas habitués. Il y en a même qui me disent « Ah, j'ai pas de platine CD ». Donc ils ont même pas de quoi écouter.
Alors qu'ils ont tous un ordinateur.
Voilà, ils ont tous un ordinateur, mais
ils ont pas cette démarche.
Non, pas forcément. Non, alors souvent ils ont le disque qui va rester emballé, il va rentrer à la maison et ils vont aller écouter l'album sur Internet. Voilà. Et là, on se retrouve confronté à autre chose qui est la qualité sonore avec laquelle on écoute la musique. Ce qui fait partie aussi de mes cours. Voilà, je me sers de mes enregistrements pour ça. Les gens ne se rendent pas compte, mais on a des machines actuellement pour écouter de la musique avec une qualité sonore qu'on n'a jamais eue. Voilà, c'est incroyable. Et on n'a jamais écouté avec une qualité aussi médiocre. Et donc ça fait partie du cours à un moment de se retrouver. Je profite du fait, moi, d'avoir enregistré de la musique où je me retrouve avec les mastering 24 bits, comme on dit. Donc, à savoir que le 24 bits, déjà, c'est supérieur au CD qui, lui, est en 16 bits. Bon, sans faire un cours d'acoustique. Mais donc, c'est intéressant de faire écouter à l'élève ce qui sort du studio de mastering et puis le même morceau sur un CD et puis le même morceau en streaming en MP3 et le même morceau enfin sur YouTube où par pitié n'allez plus écouter la musique, le son est une catastrophe, les basses sont complètement écrasées, on n'entend rien et là où peut-être tu vas être surpris Jean-Marc, c'est que j'ai plein d'élèves qui voient pas la différence entre le YouTube et le 24 bits et me disent j'entends pas la différence. Donc ça fait partie aussi de mon rôle d'éduquer leur oreille là-dessus, parce que sur YouTube, si on a envie de relever la partie du bassiste, c'est quasiment mission impossible. Donc de se retrouver avec tous les détails, tous les aigus qui vont avec, et c'est pas pour rien je crois que le vinyle est en train de revenir à la mode, parce qu'il reste le seul support qui n'est pas compressé, puisque le CD, comme je viens de le dire, le CD c'est déjà compressé, c'est-à-dire que le CD c'est déjà pas la qualité optimum qu'on a à la sortie du studio. Seul le vinyle aujourd'hui permet de restituer ça.
Mais le vinyle, par essence, c'est de l'analogique. Là, le meilleur album qui puisse être, c'est du numérique. Un ancien album qui a été enregistré en analogique et reproduit sur la matrice pour un vinyle, comment ça marche au niveau audio si on veut prendre un morceau actuel qui n'a rien à voir avec l'analogique, qui est numérisé, qui n'a pas forcément la même couleur et chaleur de son, quand on le met sur un vinyle, comment on s'est reproduit? Comment vous pouvez expliquer ça?
Je suis pas sûr de bien comprendre ta question.
Le son d'un vieil album, puisqu'ils ressortent des vieux albums,
oui,
en support vinyle, mm-hmm, ça c'est bon. Mais les nouveaux albums qui n'ont rien à voir avec l'analogique, qui sont mis sur vinyle, quel apport il y a? Parce qu'on dit le vinyle c'est chaud, c'est du son analogique, mais quand c'est du numérique sur un vinyle, comment ça marche?
Alors à l'époque ça marchait sur bande, donc c'était des bandes magnétiques sur lesquelles on enregistrait et on se servait du vinyle pour le support. Aujourd'hui moi j'avoue que dans la production je sais pas du tout comment on passe d'un disque moderne, à part avec une matrice numérique également, hein, ce qu'on fait pour le CD. Ou alors il faudrait rétablir l'ancien procédé, revenir sur l'analogique à la sortie de la console directement peut-être pour rentrer sur le vinyle. Mais quoi qu'il en soit, l'avantage qu'il y a sur le vinyle, c'est que les fréquences ne sont pas coupées. Voilà. Ça, pour le commun des mortels, c'est un petit peu difficile à comprendre, mais en gros, sur ce que entend le principe du MP3, hein, pour les gens qui savent pas, c'est que sur ce que l'échelle que notre oreille est capable d'entendre, eh ben, on coupe les fréquences soi-disant inaudibles à l'oreille humaine, on les coupe, ce qui permet d'avoir un fichier moins lourd. Sauf qu'en fait, c'est pas parce qu'on n'entend pas une fréquence qu'elle vient pas résonner dans les harmoniques de la musique qu'on est en train d'écouter. Chaque note est faite de plusieurs sons qui vient réveiller plusieurs sons par sympathie, par résonance. Et quand on utilise le MP3, on coupe un petit peu ces choses-là. Et ce qui fait la chaleur d'un son, c'est aussi les sons qu'on n'entend pas, en fait.
Et en parlant de son, on revient sur l'album Echoes of Magic Trips de Don Millier's Excuse 5, chapitre 4. Vous avez participé au morceau Le jour d'après, Bataclan.
Oui.
Vous avez fait les paroles.
Oui. les paroles et les arrangements de voix. Donc c'est le seul morceau du disque sur lequel je suis intervenu, mais j'y suis venu avec grand plaisir. Donc je suis allé chez Michel, qui avait déjà bien maquetté son morceau, qui avait une idée de la mélodie que les voix étaient censées faire. Et à partir de là, il m'a demandé de m'occuper du texte sur lequel il m'a donné les lignes aussi. Hein. Il avait une idée bien précise de ce dont il voulait que ça parle. Il voulait quelque chose qui lui ressemble, quelque chose de très humaniste finalement. J'ai fait de mon mieux pour essayer d'être fidèle à sa pensée et à son cœur, comme on en parlait tout à l'heure. Et puis arranger les voix avec la mélodie qu'il m'a donnée sur les harmonies qu'il avait écrites en dessous.
Thank you.
Superbe ambiance sur malheureusement un fait tragique qui s'est déroulé il y a pas si longtemps que ça, malheureusement.
Oui, c'est sûr.
Donc revenons à votre actualité proche, David Carion.
Eh bien, l'actualité proche, mis à part Lou Jam, où évidemment j'invite tout le monde, hein, si vous voulez voir Lou Jam, vous allez sur Facebook, vous tapez Lou Jam, L-O-U plus loin J-A-M, et vous aurez l'occasion de voir le planning avec les concerts à venir. Sinon, l'actualité, bah, c'est la classe de musique actuelle du conservatoire, ce samedi. Donc, deux groupes, Les Petits Boucans et Moon Taxi, que vous pourrez voir au quartier du Pigeonnier à la salle Perchaud à partir de 14h15. Et donc la soirée de la classe de musique actuelle au sens propre en partenariat avec le Studio 57 à l'école du sous-sol, donc au plan d'eau de Ding, sous le restaurant, à partir de 18h.
L'heure arrive, on va se quitter.
Eh oui.
Déjà.
Déjà.
Mais bon, vous revenez quand vous voulez. Hein.
Merci, ben avec grand plaisir.
Et on se retrouve, vous, avec vos élèves, bientôt sur scène.
Voilà, tout à fait.
Et à l'antenne de Fréquence Mistral, rapidement.
Très bien.
Merci David.
Merci beaucoup Jean-Marc.